Club Anna Kofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine, présentée par David Charlet et Fabrice Coustet.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Club Anna Kofi. Je suis ravi de vous retrouver pour toutes ces infos sur l'Anna Kofi bien sûr, mais aussi le monde de conseil en gestion de patrimoine. Et c'est bien sûr avec le président de l'Anna Kofi, David Charlet. Bonjour David.
Bonjour Fabrice.
Au sommaire de cette édition, en deuxième partie, comme d'habitude, on va parler de notre grand sujet du jour. Eh bien, c'est l'Anna Kofi qui s'est intéressée à ce qu'a provoqué le Covid chez les membres de l'Anna Kofi, les conseillers en gestion de patrimoine. Donc, on a les résultats de la deuxième enquête, une enquête miroir, puisqu'il y avait déjà eu une première édition. Et on verra comment, effectivement, les conseillers en gestion de patrimoine ont traversé la crise et comment ils envisagent l'avenir. Mais on va commencer, David, par les Actu Anna Kofi, un programme relativement chargé. On va le voir comme d'habitude, beaucoup de choses. L'Assemblée Générale, Tour de France Digital, les travaux avec les diverses associations, vos notes du service juridique sur les cryptos, l'obligation communication ESG. Bref, un programme chargé. On commence tout de suite les Actu Anna Kofi.
Club Anna Kofi, l'actualité.
Alors David, on en parlait en préambule, effectivement, une actu Anna Kofi toujours chargée. On démarre avec votre Assemblée Générale qui s'est tenue il y a peu.
Oui, on a tenu l'Assemblée Générale, alors en digital, hein, on est toujours en période Covid, donc on est resté sur le schéma de l'année dernière. Pas d'énormes décisions, excepté ce qui était annoncé, la création formelle de l'Anna Kofi Courtage, la première assemblée générale de l'Anna Kofi Syndicat. Et puis pour le reste, c'était des assemblées générales ordinaires, sans grand enjeu en dehors de ces deux éléments dont je viens de parler avant, qui nous permettent administrativement de terminer la réforme qui était engagée depuis presque deux ans à l'Anna Kofi pour réorganiser le groupe des associations et des syndicats qui la constituent. Voilà, donc ça s'est bien passé. Enfin, techniquement, c'était un peu compliqué. C'est plus compliqué que l'année dernière. On aurait pu penser que les prestataires auraient progressé. Ça a été un peu plus compliqué, mais on s'en est sorti et les assemblées générales sont faites.
Ça veut dire qu'il y avait... Comment ça se passe? Tout le monde était connecté, c'est ça, à distance? Tout le monde a pu voter aussi?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la loi prévoit que toutes les organisations, donc on est sur les lois d'exception liées au Covid, hein, toutes les organisations, qu'elles aient ou non la possibilité dans leur statut de faire des assemblées générales à distance, le peuvent. Simplement, il y a des contraintes, et notamment des contraintes de pouvoir rendre le son. Les débats sont entre un certain nombre de personnes, ceux qui constituent le bureau, pour le faire simplement. Les gens ont pu déposer toutes leurs questions en amont. Et puis, quand l'Assemblée Générale commence, donc nous, on avait laissé jusqu'à 8h du matin, sachant que les Assemblées Générales commençaient un petit peu après 9h, pour poser toutes les questions par écrit sur un outil. Et puis ensuite, ils se connectent, ils entendent les débats de ceux qui peuvent parler. La loi oblige à avoir de la voix, pas forcément de l'image. Donc, on avait mis l'image pour les débatteurs, mais pas l'image pour les membres. Et puis, pour chaque question, le système leur permet de voter en ligne et en temps réel, ce qui fait que quelques minutes après, on est capable d'avoir les votes. Évidemment, ça, c'est un beaucoup plus gros boulot. D'ailleurs, c'est amusant. C'est un beaucoup plus gros travail en amont que ce qu'on fait sur une assemblée générale classique, puisqu'il faut avoir quasiment tout écrit pour que les gens soient sûrs avant, ce qui fait que les procès-verbaux sont sortis très vite. Voilà, on est en train, je pense qu'aujourd'hui, on aura fini de valider les derniers procès-verbaux de toutes les entités, alors qu'habituellement, dépouiller les voix et réécrire ce qui s'est exactement dit en salle en réécoutant les bandes quand il y en a, c'est beaucoup plus long.
Et oui, effectivement. Voilà. Bon, finalement, au moins, ça a beaucoup de travail en préparation et en amont, un petit peu moins une fois que l'Assemblée générale est terminée, évidemment. Donc, les statuts, OK, Assemblée générale, effectivement. Des consultations qui ont été menées également et des décrets qui sont parus, David.
Oui, alors on peut aller vite sur les consultations européennes. On a, comme d'habitude, alors ça s'était un peu calmé, ça redémarre et on a des consultations qui reviennent. On est toujours un peu autour de MiFID et DDA pour ce qui nous concerne, de tout ce qui pourrait être tech et de l'ESG. Donc on en parle à chaque fois, on ne va pas y revenir. Je pense que c'est clair, il y a ça qui est dans les tuyaux et qui génère pas mal de consultations diverses et variées. Par contre, on a la consultation très concrète qu'on attendait autour de la rédaction des décrets pour la réforme du courtage dont on parlait dans le dernier numéro avec la députée qui avait porté le projet. Bon, bah maintenant, on en est au décret. Donc, on est rentré dans cette phase de consultation au vu de la rédaction des décrets par le Trésor. On envoie notre copie là, je pense aujourd'hui ou demain, au moment où on met l'émission en boîte. Voilà, et on va maintenant suivre le Trésor, après avoir suivi le Parlement, on va maintenant suivre le rythme qu'imprimera le Trésor pour aller ensuite à l'étape d'après, qui sera celle de l'échange avec la CPR.
D'accord, on prévoit combien de temps, à peu près, vous qui connaissez ce temps politique,
oui,
administratif?
Ouais, je connais la théorie. Bon, on a déjà un mois de retard. Alors, on va dire qu'on devrait, d'ici la fin juin, avoir des décrets. Est-ce qu'on aura fini de répondre aux consultations dessus? Je ne sais pas. Peut-être. Sinon, ce sera juillet. Et puis, bah, vous voyez bien qu'après, ce sera la CPR qui prendra la main. On annonçait au tout début que les validations d'entités d'adhésion pour les courtiers seraient en septembre. Au début, on disait en août. Après, on a dit en septembre. Maintenant, on dit en octobre. Je pense que ce sera par là. Je pense qu'on a un mois de retard par rapport au planning et qu'on devrait pouvoir avoir les décrets dans l'été avant juillet ou avant mi-juillet, les échanges avec la CPR dans la foulée, une validation qui sera en octobre-novembre pour les entités, ou en tout cas pour les premières qui recevraient l'agrément de la CPR, sachant que l'application, tout le monde devra rentrer dans les associations, ce qui est prévu dans le courant de 2022, mais avril pour le premier paquet. Bon, c'est raisonnable. Si le sujet sera plus la mise en place des associations et les moyens techniques qu'elles mettront en œuvre pour accueillir les professionnels, enfin les entreprises.
Bien sûr.
Mais bon, là, on a une petite marge de manœuvre si le Trésor et la CPR étaient un peu en retard.
Entendu. On passe au Tour de France qui se poursuit, hein, toujours en digital. David, est-ce que vous avez une idée de quand on pourra recommencer eh bien, ces tournées en physique, puisque ça y est, on est à la mi-mai et eh bien, on attend la réouverture des cafés. Est-ce que ça veut dire aussi que le Tour de France va reprendre eh bien, le présentiel, ce mot affreux qui veut dire qu'on voit les gens en vrai?
Ben alors, on va en reparler après avec l'étude Covid. On va voir que l'appétence, elle est réelle pour revivre. Elle n'est pas forcément aussi réelle que ça pour retourner en salle. Alors, on va y aller tranquillement. En fait, là, à partir de tout de suite, on commence à voir les rendez-vous physiques et les réunions présentielles se réorganiser. Il faut être très, très clair là-dessus. Il y a vraiment un choc brutal. Je ne l'avais pas imaginé comme ça. Mais mon agenda, et pas seulement le mien, de celui d'une partie de l'équipe, pour ce que je pense avoir, est passé brutalement de la visio et de la réunion à distance, des calls, encore que les gens commençaient à avoir marre du téléphone, donc c'est massivement de la visio, bah là, maintenant, on commence à avoir deux, trois réunions par semaine en présentiel dans des réunions classiques, quoi.
Bien sûr.
Et puis on voit que des événements commencent à être réannoncés. Alors tout le monde a pris ses sécurités sur juin, mais on va commencer à faire, c'est participer aux événements de tous ceux dont c'est le métier d'organiser des événements et qui vont commencer à faire du présentiel, du concret, du on se voit. Et on va rester comme ça jusqu'aux grandes vacances. Et nous, on redémarre vraiment tout début septembre par l'université d'été, le 2 septembre, et ensuite, on déploie un Tour de France classique, comme on a l'habitude de le faire. Mais jusqu'à ce moment-là, on va commencer à reprendre un peu les marques et on va aller participer à ce qui se crée, mais qui n'est pas forcément créé par nous, même si on ne s'interdit pas de pouvoir organiser des réunions, réorganiser des réunions dans nos salles de réunion au siège de l'Anacofi, bien sûr. Voilà. Et du coup, ça devrait peut-être entraîner un certain nombre de déplacements, de passages en province, si des événements en province sont maintenus ou déployés. Mais ce ne seront pas encore les nôtres, ce seront ceux dont nous sommes partenaires.
Entendu.
Le Tour de France digital, il fonctionne. Très bonne surprise, mais je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est une bonne surprise. Quand on déploie des dates régionalisées, ça marche. Quand on met des modules de formation, on a trouvé le format, donc les modules en classe virtuelle, je pense qu'on a trouvé le format. On s'était un peu loupé sur la première proposition sur certains, mais a priori, ça a pris. Et on a de plus en plus de demandes pour ce format-là, qui est donc entre le e-learning classique sur une plateforme et puis le présentiel, et qui commence à satisfaire suffisamment de monde pour que nos salles virtuelles soient pleines dans ces moments-là. Et même qu'on ait des échanges un peu comme on les avait en présentiel, ce qui était, les gens n'avaient pas forcément encore leur marque là-dessus au début. Là, c'est un peu plus le cas.
D'accord, tout le monde prend l'habitude. En tout cas, nous, David, on compte vous voir hein, très bientôt dans le studio, en chair en os. Ça sera aussi plus simple pour les échanges. On parle des travaux avec les...
On l'a déjà fait. Là, c'était juste que techniquement, ce n'était pas possible de vous rejoindre à l'heure qu'il fallait.
Voilà, il y a l'agenda qui est chargé, que ce soit en digital ou en vrai, avec des vraies réunions. On discute également des travaux avec les autres associations qui se poursuivent.
Oui. Il y a deux types de travaux, hein, mais c'est sûr que là, il y a une vraie cohésion, je ne sais pas, mais en tout cas, collaboration entre les organisations professionnelles, tant au niveau européen que français, parce qu'on a plein de sujets qui sont communs. La réforme du courtage, c'est un sujet commun à toutes les associations avec lesquelles on interagit, et qu'elles soient vues comme nos concurrentes ou qu'elles soient vues comme nos alliés, peu importe. On a tous à mettre la main à la pâte et à la mettre ensemble. Donc ça, c'est le premier point. On a bien sûr toutes les consultations de Bruxelles autour de nos modèles, de la réforme de MIF, de la réforme de DDA. Et là, vraiment, il y a un travail concerté avec des échanges. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais il y a des échanges afin de pouvoir répondre sur les points principaux. D'ailleurs, quitte à répondre ensemble, en fait, et on l'assume pleinement. Et donc, au niveau européen, c'est la même chose, hein, mais la fédération, la FESIF, est faite pour ça. Donc, on fait des réponses groupées pour envoyer à la Commission au nom de toutes les organisations. Ça, c'est l'usage. Et puis, il y a des travaux complémentaires. Alors, on peut citer, par exemple, des travaux autour des relations qu'on a avec les régulateurs, où on a quelques échanges ces temps-ci autour de ça, et de la collaboration. C'est d'autant plus important cette collaboration qu'on a avec les régulateurs qu'il y a un système de co-régulation chez les CIF, mais on annonce aussi un agrément côté ACPR, donc on est en train de mener quelques réflexions tous ensemble là-dessus. Voilà. Et de partager nos expériences à ce sujet.
On continue.
Voilà pour les principaux travaux.
Ok. On parle de l'Europe, hein, puisque Fédération européenne aussi, vous y êtes attaché. Je crois qu'il y a eu votre sommet, peut-être pas, mais en tout cas, une réunion à laquelle vous avez participé récemment.
Oui, alors si vous voulez quelque chose qui est vraiment très décalé par rapport à la vie d'avant, c'est que les réunions de la FESIF, c'était 4 fois par an et c'était dans une capitale d'Europe où tout le monde se retrouvait. Et pendant une journée, on travaillait sur toutes les thématiques communes et on faisait nos assemblées générales, nos conseils d'administration et tout ce genre de choses. Et puis le reste du temps, on avait, j'allais dire, nos off entre fédérations. Là, c'est vrai que si vous faites vraiment un truc qui change, c'est on est tous... dans nos bureaux, chacun dans nos pays, et on fait des réunions en visio, et en une demi-journée, on a réglé tout ce qu'on avait prévu de faire ensemble. Bon, toujours est-il que c'était pas notre sommet ou notre événement annuel ou même nos conseils comme avant, mais c'était nos assemblées générales. Donc, on a fait des assemblées générales de la Fédération européenne, et puis derrière, on a fait la réunion de l'advisory. Qu'est-ce que c'est que l'advisory? C'est l'entité que je préside encore. C'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu le poste de sortie du président de la Fédération européenne quand il est par ailleurs juriste. Donc, en général, il sort par là. Ça a été le cas de mon prédécesseur, d'un de mes prédécesseurs, et c'est mon cas à moi. Donc, je préside la partie qu'on appelle l'advisory, qui est la cellule dans laquelle on travaille les réponses communes, justement, aux consultations bruxelloises. Donc on a fait ça et on s'est partagé le travail sur toutes les consultations en cours. Enfin, pas tout à fait, parce que depuis l'AG qui n'a que quelques jours, on a pris 2 nouvelles consultations. Il faut qu'on se réaffecte. Mais voilà, et donc on a fait cette assemblée générale et cette advisory dernièrement. Ça s'est plutôt bien passé, si ce n'est qu'on est tous un peu inquiets de la volumétrie des consultations et de la diversité des consultations, dont certaines sont très techniques, et puis où on voit bien qu'il y a des vrais enjeux sur nos modèles économiques. Mais ça, je l'ai dit un peu avant, et ça, aussi bien au niveau national que européen, on en est tous conscients et on est tous sur le pont.
Voilà, avec des réunions du coup qui vont se poursuivre, on imagine aussi à distance jusqu'à la fin de l'année, peut-être reprise aussi des réunions en capitale à partir de l'année prochaine.
On se demande si on en fait une en novembre pour vous voyez voilà on regarde si on arriverait à faire une réunion en novembre qui soit physique, sachant qu'on en aurait fait forcément une en septembre pour voir ce qui aura avancé pendant l'été. Mais c'est pareil, voilà. Et par sécurité, parce que certains le disent, certains sont prêts à ce qu'on se revoie la semaine prochaine et qu'on aille tous boire une bière ou autre chose en plus derrière. Mais vous avez un certain nombre de personnes qui disent non, pas maintenant, pas chez moi. Enfin, voilà, je suis difficile de sortir ou c'est pour vous difficile de rentrer. Et donc, par sécurité, on dit non, mais on va quand même essayer de regarder s'il est possible de faire une de ces réunions comme on les faisait avant en novembre. Voilà, et je pense que c'est un peu à l'image de cette année. Hein. Là, on nous dit on va tous pouvoir se libérer, revivre normalement, reconquérir nos clients logiquement, classiquement, comme avant. La vérité, c'est que peut-être, voilà, disons que là, c'était pas possible, là, maintenant, peut-être. Ben, voilà, sur les réunions prévues à l'international, c'est la même chose. Il n'est pas impossible de le penser, il n'est pas interdit de le penser, mais on verra, et on verra ça en septembre, pour si on peut en novembre.
Parfait. On parle crypto-monnaie. Vous venez de publier une note de votre service juridique hein, sur un sujet qui agite hein, toujours la planète finance. Certains y voient une arnaque, d'autres y voient le nouvel Eldorado, et évidemment beaucoup de questionnement de la part des clients et du coup vous avez publié cette note donc.
Alors oui, on est en train de sortir plusieurs notes, mais je pense que celle qui intéressera, il y en a deux qui intéresseront le plus les gens. La première, c'est quelque chose qui c'est une note qui va expliquer quelles sont les obligations d'information et de transparence autour des actions ESG et des produits estampillés ESG que nos membres proposent. Ça, c'est la première. On verra, elle est en chantier, on en est, je veux dire, au quart avant de pouvoir la communiquer. La deuxième. Par contre, celle-ci, elle va intéresser très très vite parce qu'on l'a rédigée parce qu'il y avait une énorme demande. Le service juridique était très fortement interrogé et nous, certains des élus aussi, donc, autour du droit de nos membres à faire du conseil ou de l'accompagnement sur des cryptos. Alors, c'était très ciblé, c'était crypto-monnaie. Du coup, on fait une note qui est orientée crypto-monnaie qui dit à nos membres, voilà ce que c'est, voilà ce que vous avez le droit de faire, voilà dans quel cadre. Si vous voulez rentrer dans un autre cadre qui vous permet plus de choses, voilà comment vous y allez. Bon, en gros, c'est ça. Mais évidemment, on fait un petit balayage de tout ce que sont les autres crypto-assets qu'ils ont le droit aussi de conseiller, voire d'intermédier, puisqu'il y a des différences entre ce qu'on appelle les crypto-monnaies et puis les crypto-actifs de type classé comme des équivalents produits financiers. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, on fait une note la plus courte possible, volontairement courte. Il ne s'agit pas de refaire des études, mais par contre, dans la note, on va renvoyer à des études qui sont bien foutues ou à des notes ou des documents de l'AMF ou de la CPR s'ils existent, de façon à ce qu'ils puissent voir. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, nos membres sont de plus en plus interrogés par des clients et eux n'ont pas de vraie vision de ce qu'ils ont le droit, je ne suis même pas dans la culture, hein, de vraie vision de ce qu'ils ont le droit de faire et de dire. Voilà. Donc, c'est à ça qu'on va essayer de répondre. Dans cette note, on n'arrivera pas à refaire la totalité de la culture qu'il faut qu'ils acquièrent. Mais pour ça, il y a des documents très bien faits, on renverra vers ces documents. Voilà, la note est donc aujourd'hui diffusée, mais dans une équipe restreinte de ceux que ça intéressait au premier chef, et d'ici, je pense, une semaine, elle sera diffusée à l'ensemble des membres.
Bon, eh bien, voilà, à suivre en tout cas, et sur le site directement de l'Anacofi. Dernière info actu, Anacofi, obligation de communication ESG.
Oui, bah, ça va avec, c'est l'autre note qu'on prépare. Oui. Il y a une obligation qui est passée, donc on est en train de bosser là-dessus. Alors, une communication de base, on en a déjà fait une. Hein. La commission ESG-ISR de l'Anacofi avait déjà fait une communication à destination des membres. Ça, c'est fait. Maintenant, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire ce qui est en chantier, c'est dans vos protocoles, dans vos procédures internes d'entreprise, voilà ce qu'il va falloir que vous fassiez. Sur vos documents, voilà concrètement ce qu'il va falloir que vous fassiez. Voilà, donc c'est là où je disais qu'on est à un quart. On est à un quart de ce que les juristes sont en train de finaliser. Alors, on est à un quart. En fait, on est peut-être à la moitié, c'est peut-être fini après-demain, mais c'est pas sûr parce que je voudrais qu'il y ait un peu de relecture de différentes personnes. On est dessus parce que oui, il y a un certain nombre de nos professionnels qui sont concernés. Alors, selon les statuts, tout le monde l'est pas. Bon, ben voilà. Mais ça avait déjà été dit dans la première note. Là, on est dans ce qu'on produit, la matière concrète utilisable par nos membres. La note explicative, elle a déjà été envoyée.
Parfait, David, merci pour ces actus très complètes sur l'Anacofi. Tout de suite, on passe à l'enquête Anacofi et les impacts de la crise sur l'activité des CGP.
Club Anacofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine.
Hey, hey. David, vous avez lancé la deuxième partie d'une grande enquête auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Quels sont les impacts de cette pandémie, de cette crise sanitaire sur l'activité des CGP ? Vous aviez déjà fait un premier volet il y a quelques mois. Pourquoi cette étude en deux parties ? C'est pour comparer justement le moral des troupes ?
Oui, c'est ça. Alors, c'est pas que le moral, mais c'était bien l'idée, c'était bien d'avoir une étude en deux temps. Parce que, bon, quand on a fait la première, on l'a faite en août-septembre de l'année dernière. Si vous vous souvenez bien, on avait donné des résultats intercalaires pendant l'université d'été. Là, qu'est-ce qu'on obtenait ? On obtenait une sorte d'impression en plein, alors qu'on venait d'avoir un moment catastrophe, une tentative de redémarrage qui pouvait n'être qu'une impression. Bon, voilà, on ne savait pas très bien comment ça allait se passer, donc on avait pris une photo. Et puis, on avait dit dès le début, on refera une photo un peu plus tard, histoire de pouvoir regarder si c'est bien ce qui s'est passé et si on ne savait pas très bien comment serait d'ailleurs cette crise. Le Covid s'arrêterait, ça s'arrêterait pas, les vaccins. Mais en tout cas, avec un écart pour voir ce qui se passait. Alors, on espérait qu'en fait, on regarderait et après la sortie de crise. En fait, ce n'est pas ce qu'on a pris. On a pris plein milieu de crise. Deuxième photo, plein milieu de crise. Simplement, il y a une année qui a été entièrement vécue. Donc, on a le constat de ce qu'ils imaginaient qui se passerait sur cette année 2020 et la suite. Et en fait, on a le constat de ce qui s'est fait sur cette année et une photo de comment, dans une crise qui continue, ils ont réussi à s'habituer et quel est leur état d'esprit et leur vision des choses dans cette crise qui continue. Mais donc, comme l'année dernière, on annonce que ça va, on va en sortir. Même quelque part, c'est presque un peu la même situation, si ce n'est qu'ils me permettent de voir, il s'est dit quoi, enfin, il s'est imaginé quoi, il s'est passé quoi, et puis est-ce qu'ils ont une vision meilleure, même si ça, comme l'année dernière, pas exactement ce qui se passera derrière. Voilà. Mmh. Et donc, il fallait deux photos. Et du coup, après, on fait des comparaisons entre ces deux photos.
Alors justement, premier enseignement, on voit finalement que les conseillers en gestion de patrimoine ont fait aussi bien ou mieux qu'en 2020 qu'en 2019 pour 6 sur 10 d'entre eux, environ 60%. On aurait pu craindre le pire et puis finalement, ça s'est pas si mal passé.
Oui, ça s'est pas si mal passé. Après, notons quand même qu'à l'autre bout, il y en a quelques-uns qui ont souffert. On a quand même 15-20% des membres qui ont eu mal, mais la bonne surprise c'est ce 60, mais c'est aussi que ce 60 était anticipé 50. C'est-à-dire que quand on leur demandait comment ils imaginaient leur année 2020 l'année dernière en août-septembre, ils n'étaient que 50% à dire je vais faire aussi bien voire mieux. Quand on leur demande s'ils ont fait aussi, enfin, ce qui s'est passé, à 60% ils disent aussi bien ou mieux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ils se sont mis en place, ils ont déployé, mais ça fait quand même 10 ans que je dis qu'en fait, les CGP, les entreprises de CGP, sont dirigées aujourd'hui par des hommes et des femmes qui sont des chefs d'entreprise. Donc, on s'adapte. Et en plus, sur des entreprises très adaptables. Donc, ils ont vu une crise, ceux qui devaient gérer avaient géré très bien, et puis d'autres se sont organisés parce que la crise, ils ont bien compris à un moment qu'elle allait durer, et finalement, oui, on a un résultat qui est meilleur. Nous, n'oublions quand même pas ceux qui disent difficulté, parce que ceux qui disent qu'ils sont en difficulté, on a une fraction qui disent qu'ils sont très grandes difficultés, et c'est quand même pas rien, même si ce n'est pas à la hauteur de crise qu'on a eu vécue à d'autres époques, et même d'ailleurs... La crise 2012-2013, dont personne ne parle jamais, mais qui avait été assez brutale, alors avec la coupure de la distribution immobilière et autres, qui avait fait très mal.
Ah oui, tout à fait. Si on regarde maintenant un petit peu la prospective, comment ça se passe pour cette année ? Là aussi, on a quelques chiffres, à savoir que, pour cette année 2020, en tout cas, 46% des membres de l'Anacofi envisagent un rebond de leur activité. 34% anticipent un maintien de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est plutôt soit égal, soit un peu mieux.
Oui, il faut quand même noter que 40% avaient dit que l'année avait été moins bonne que 2019. Donc, ça signifie que par rapport à leur année de référence d'avant, il y a du rattrapage à faire. Donc, entre ceux qui considèrent qu'ils ont trouvé un modèle, que ça ne peut aller que mieux si on peut régénérer des nouveaux clients, ce qui est clairement une des difficultés pour un certain nombre de nos membres. Ceux-là sont forcément dans une vision positive. Et puis, parmi ceux qui avaient pris un coup, ils se disent, de toute façon, la réouverture, ça ne pourra faire qu'améliorer mon chiffre. Donc, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent d'imaginer que ça ira mieux, voire que ce sera un rebond. Ouais, là, je suis pas... Alors par contre, là-dessus, je ne suis vraiment pas surpris. Je m'attendais à peu près ce genre de score. C'est logique, surtout pour un métier qui a réussi à résister et qui dit bah, j'ai réussi à résister sans utiliser toutes mes armes. Donc quand vous me rendez toutes mes armes, je vais faire mieux.
On a une,
Voilà.
un sentiment sur la concurrence. Alors là, c'est assez neutre. En fait, finalement, la crise n'aurait que peu d'effet pour 77%, je crois. C'est ça, un 8 sur 10 pratiquement. Bon, il n'y a pas vraiment de tendance. Voilà, c'est toujours aussi dur finalement de faire du business, des affaires. Il n'y a pas eu de purge ni non plus de plus de difficultés.
Ben, on a intuitivement certains de nos élus, et c'est pour ça qu'on a rajouté la question, nous disaient on a l'impression qu'on est lourdement attaqué par des concurrents, que ce soit les banques ou autres. Et d'autres disaient exactement l'inverse. Donc on a glissé la question, puis on a la réponse, hein, effectivement, 77% des membres disent non, la concurrence était la même. Hein. Voilà, pas de sujet sur la concurrence. Si on doit regarder dans ceux qui ont répondu plus ou moins. Bah, oui, bien sûr, sur les 25% qui restent, il y a une fraction un peu plus importante qui a dit qu'elle était plus forte. Oui, non, il n'y a pas vrai. La tendance, c'est non, dans la crise, il n'y a pas eu tant que ça, plus ou moins de concurrence. La crise, tout le monde l'a vécue, et basta, quoi.
Alors, en revanche, on a dû évidemment s'adapter. David, est-ce que les membres de l'Anacofi ont déployé de nouveaux moyens de conquête? Eh bien, oui. 30% des membres ont recherché de nouveaux moyens de conquête. Et alors, c'est pas évident, on cherche beaucoup, mais seulement 10-12% estiment avoir trouvé des solutions plus efficaces que dans le monde d'avant. Ça, c'est plutôt intéressant.
Oui, alors on peut aussi le dire autrement. On peut se dire que parmi ceux qui ont essayé, c'est au moins un tiers qui disent que ça a été un succès. C'est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses. Ça dit la première, c'est que nos CGP, dont vous avez remarqué qu'ils ne disent pas avoir fait une si mauvaise année que ça, n'ont pas eu besoin pour les trois quarts d'entre eux, presque, enfin 70%, n'ont pas eu besoin de changer leur modèle de conquête client. Bon. On sait que beaucoup d'entre eux ont vécu sur les clients existants et qui sont plus concentrés sur les dossiers existants, mais bon voilà, ils n'en ont pas ressenti le besoin. Et dans les 30 qui ont cherché, bah, ce que l'on peut dire, c'est que la majorité des gens qui ont essayé de chercher un nouveau modèle, soit ont réussi à regagner le niveau de conquête qu'ils avaient avant dans l'ancien monde, soit ils ont réussi à faire mieux. Alors on pourrait le traduire en disant, si vous essayez, ça marche. Voilà, peut-être que vous ne ressentez pas le besoin d'essayer parce que vous arrivez à vivre avec ce qui rentre tout seul et avec ce que vous aviez en stock, mais pour ceux qui ont essayé, eh bien, dans la grande majorité des cas, c'est quelque chose qui fonctionne. La vraie question, c'est comme ce n'est pas de la totalité de la population, est-ce que si la totalité de la population essayait de changer de modèle de conquête client, on n'aurait pas un taux de réussite plus bas? Ça, pour le coup, parce que pour l'instant, ce que l'on sait aussi, c'est que ceux chez qui ça a bien marché, sont des gens qui ont trouvé des solutions. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elles soient à 100% industrialisables. Si tout le monde avait ce modèle-là, le côté différenciant qui fait que vous y arrivez, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on pourrait le déployer sur 100% des membres et s'attendre à avoir le même résultat, le même score en termes de réussite.
Bien sûr. Alors
Mais
ça, c'était du côté évidemment du public et des clients. On regarde aussi en interne si vous avez des employés. Envisagez-vous plutôt d'embaucher, licencier, externaliser ou pas concerné. On voit qu'il y a quand même une vision croissance hein, qui continue pour les cabinets, notamment les plus importants, qui envisagent et qui continuent à envisager d'embaucher.
Oui, bah, oui, mais ça va avec la concentration et la réussite de certains cabinets. C'est-à-dire, si on sait que si on attire des capitaux de grands fonds, y compris institutionnels, dans nos corps de métier, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est qu'aujourd'hui, nos sociétés, on a très très peu de grandes entreprises dans nos métiers, on a très très peu d'ETI, et pourtant on attire des instits. Il se passe quelque chose. Donc on a une partie de la population qui est constituée de petits cabinets unipersonnels, 60%. Et puis après, très très vite, même des cabinets pardon, de taille moyenne sont dans des situations structurellement positives, y compris les petits ne sont pas spécialement en crise, hein, mais je veux dire, là-dedans se déverse pas de capitaux instits. Et puis, dès qu'on monte très très vite sur des boîtes de 30, 40 personnes, on est là sur des entreprises qui attirent des gens qui ont envie de les rejoindre, qui attirent des capitaux. Enfin, voilà. Ce sont des métiers qui plaisent et qui fonctionnent. Eh bien, ces métiers-là ont résisté dans la crise et on voit bien qu'ils disent oui, on continue à parler croissance et ça veut dire aussi embauche. Oui. Notez quand même que certains disent bon, écoutez, je vais pas forcément licencier, mais enfin, je vais externaliser. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans les deux précédentes crises. Je rappelle que là, on voit qu'on a 60 à 70% de nos membres qui n'ont pas forcément de salariés. Alors, dans ceux qui ont répondu 70, en vérité, c'est à peu près 60, un peu 60-65. Mais une chose, ce taux était beaucoup plus bas de ceux qui n'ont pas de salariés dans les deux crises d'avant. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a outsourcé l'humain, on a outsourcé aussi certaines prestations par du logiciel ou des prestataires externes. Donc, on a beaucoup de boîtes qui avaient des employés qui en ont plus. Et souvent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui bosse pour eux. Ça veut dire qu'ils utilisent des heures de ceci ou de cela
On
payées à
travaille
un tel ou
différemment.
un tel. Et attention à cette remarque quand même, c'est que autant la majorité de ceux qui ont des employés disent je vais en embaucher encore plus, autant une fraction dit quand même je vais outsourcer.
OK.
Voilà. Et ça pourrait encore réduire la proportion de celles qui ont des employés, et elle serait encore plus grosse comparée aux autres. Ça peut avoir cet effet-là.
On regarde également sur le, vous en parliez à l'instant, hein, les nouvelles méthodes de travail. Est-ce que les gens ont prévu de changer leur méthode de travail? Ils ont dû évidemment s'adapter et il y aura un effet. Alors, on fait le lien justement, les méthodes de travail, ça passe aussi par la formation. Donc, on va évidemment beaucoup plus utiliser le numérique, que ce soit pour son boulot de tous les jours, mais également pour le e-learning.
Oui, bah alors sur les méthodes de travail, il y a un grand gagnant, c'est le rendez-vous à distance. Bon, en fait, tout ce qu'on a proposé dans le questionnaire comme méthode possible d'évolution, ils nous ont répondu oui, plus ou moins toutes. Si ce n'est quand même que celle qu'on avait, enfin, la proposition qu'on avait faite autour de est-ce que vous allez vous regrouper, la réponse est non. Et ça, je pense que c'est important. C'est quand on dit que c'est un univers dans lequel les gens se regroupent, je dis mais non, mais je suis pas sûr, les gros, oui, il y a de la concentration, chez les petits, pas tellement, et ils sont solides. Regardez le chiffre, c'est-à-dire que d'une étude à l'autre, ça a encore baissé, quoi. L'idée de se rapprocher, suite à cette crise, changer ses méthodes de travail, c'est-à-dire travailler à plusieurs en se rapprochant, la réponse est non. C'est le seul domaine dans lequel enfin, c'est la seule offre que nous faisions qui n'a pas vraiment de succès. Le reste, tout fonctionne, mais le grand gagnant, c'est le rendez-vous à distance. Bon, l'autre gagnant, c'est le logiciel, renforcer les logiciels et renforcer la digitalisation des pièces. Par contre, changement de méthode, oui, vous parliez formation. Alors là, pour le coup, c'est une vraie
Vraie
révolution.
tendance.
Oui, en tout cas, il y a une cassure, quoi. Avant la crise, on avait 45% des membres qui voulaient faire de la formation en présentiel. Déjà, c'était plus la majorité, mais quand même, c'était 45. Aujourd'hui, quand on pose la question, on est à 27. Alors, c'est une remontée, puisqu'on était à 20 quand on a fait l'étude en septembre. On revient tranquillement vers quelque chose qui est un peu plus fort. Mais enfin, on est très, très loin de ce 45 d'avant. Et ça, c'est à prendre en considération, parce que ça signifie, par exemple, pour l'Anacofi, et de façon immédiatement concrète, nous, aujourd'hui, on faisait au départ 3 Tours de France présentiels. Deux renforcés, avait-on décidé sur l'année Covid, avant qu'on sache quel Covid. Bah là, il y a une vraie question. Ça veut dire qu'on faisait 250 jours de présence terrain partout. On passait partout en France. On avait 30 villes, jamais moins de 26, des fois jusqu'à 39, où on passait chaque année une, deux, trois, quatre fois, des fois, sur divers, avec des formations, des événements, des ce que vous voulez. C'est une vraie question. C'est une vraie question sur la formation. On a eu même monté jusqu'à 300 jours. C'est une véritable question. C'est-à-dire que s'il n'y a plus que la moitié du public qui est intéressé par la partie formation de ce Tour de France, il faudra moins de dates. Voilà, c'est très clair. Et c'est un message aussi à tous les centres de formation.
Bien
C'est
sûr.
le présentiel à son public. Alors par contre, ceux qui disent présentiel, soyons clairs aussi sur la question. La question, c'était de savoir ce qu'ils préfèrent. Donc si vous proposez à ces gens-là viendront dans du présentiel. Et pas sur du digital. Ils sont pas fans du digital. Mais voilà. Et
Et
certains
David, on peut se
pariaient sur un
demander
peu moins
aussi,
de temps.
on peut se demander sur ces événements, voilà, peut-être moins de présentiel, mais vraiment des beaux événements, hein, c'est ce qui ressort. Voilà, si c'est de la formation, on peut étudier à distance. Par contre, on a toujours besoin,
Ah,
là,
sur
on sent
l'événement, c'est pas
de
la
se
même
voir.
conclusion.
Et sur les événements, voilà, on veut participer aux événements, mais attention, note, hein, cela dépendra de l'événement. Voilà, donc on sent que il y aura un avant et un après. après, là aussi, sur les événements, et ça va, on va trier. On va accélérer un petit peu parce que...
Sur l'événement, c'est très, très différent de la formation. Quand on pose sur la formation, c'est très clairement e-learning maintenant, même si le présentiel remonte un peu. Sur l'événement, vous l'avez dit, mais c'est presque une conclusion opposée. C'est sur l'événement, s'il y en a 30%, 36% qui disent « moi, maintenant, je voudrais du e-learning », la majorité disent « ça dépend vraiment de l'événement ». Et ils sont donc là, et à la différence de la formation, tout à fait prêts à venir à du présentiel pour les deux tiers, en fait, des professionnels. Ce qui est très différent de la formation. Et donc là aussi, nous, par exemple, ça ne remet pas en cause nos événements présentiels, même si on gardera de l'événement digital, puisqu'on en a créé, on gardera les deux modèles pour nos membres. J'ai un tiers de mes membres qui ne veulent plus du digital. Je vais continuer à les servir. Mais je n'ai pas de doute sur mes événements présentiels. Ils seront pleins. Et ceux des organisateurs d'événements, s'ils sont malins, aussi. Voilà.
Ok, il nous reste très peu de temps, David, pour que, conclure et regarder. On regarde dans le rétroviseur, on regarde maintenant la perspective et demain. Quelles sont les modifications profondes que vous envisagez dans les deux ans pour votre entreprise? La question, elle diffère un petit peu de celle qui avait été posée en septembre. Là aussi, on s'aperçoit que c'est plutôt l'optimisme quand même qui prédomine pour cette profession.
Oui, c'est l'optimisme. On a un petit 13% qui dit ça va, je vais arrêter. Alors, soit je vais fermer, soit je vais céder. Ce qui n'est pas délirant par rapport à ce que l'on a d'habitude. On sait qu'on a un taux moyen. Alors, j'aime pas la moyenne, mais c'est comme ça, un taux moyen sur plusieurs années qui est de 7% de membres qui arrêtent. Alors, qui arrêtent parce qu'ils fusionnent, parce qu'ils prennent leur retraite, parce qu'ils sont plantés, pour toutes les raisons de la Terre. Donc elles ne sont pas forcément négatives, mais c'est 7, c'est la moyenne. Quand on a des périodes de crise, on monte à 12 et on peut rester à 12 durablement, ce qui fait des points en plus par rapport à la moyenne. Et puis après ça, en général, on a des redescentes vers 4 et quand tout va bien, on va flirter vers les 3-4. Mais, bon, voilà. Mais ça fait vraiment un truc en dents de scie. La moyenne, elle est à 7. Nous, là, ce que l'on voit, c'est que ce que les gens nous annoncent, c'est à peu près du 6-7 par an. La question à laquelle il faudrait réussir à répondre, sur ceux qui disent « je vais arrêter », la question à laquelle il faudrait répondre, c'est « qu'est-ce qu'il y aura en plus ?» Parce que si c'est juste ces 6-7%, bon, écoutez, c'est une situation moyenne qui dit que ça ne va pas très bien, mais ça va pas mal. Par contre, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que là, par contre, nous n'avons la réponse que de ceux qui répondent au regard de ce qui vient de se passer sur la crise. Mais statistiquement, il y aura forcément d'autres entreprises qui s'arrêteront. Et quel nombre? Si c'est 1%, c'est rien. Et oui, il y a un phénomène, mais il n'est pas majeur. Si c'est 3-4, là, par contre, en plus, chaque année, parce que ce qui nous est annoncé ici, ce n'est pas le taux naturel, alors il y aura peut-être un sujet. Ça, par contre, on n'est pas encore vraiment capable de le voir, mais ce n'est pas aussi inquiétant que ce que l'on avait vu dans d'autres crises. Et c'est une demi-crise. Si on D'accord. devait le dire d'une certaine manière, c'est une demi-crise à 7 heures. Il ne faut juste pas que ça dure.
Bon, eh ben écoutez, on espère le bout avec ces vaccins qui arrivent, le monde d'avant qui reprend un tout petit peu à partir de la mi-mai. Et évidemment, Lana Kofi et tous ses membres, on leur souhaite le meilleur avec l'aide de tous les membres participants de Lana Kofi qui aident au jour le jour cette profession. Voilà, qui résiste en tout cas, qui garde le moral, qui garde un certain optimisme. Évidemment, il y a de la casse pour certains, mais la grande majorité s'avère quand même confiance. Est-ce qu'on peut retenir, David, de cette grande étude que vous avez menée sur le moral des troupes et les conséquences de la crise sanitaire sur la profession de CGP?
C'est ça.
Parfait. Eh ben, écoutez, on se retrouve très prochainement, David, on l'espère, dans le studio. Sinon, on continuera à distance si les emplois du temps restent chargés. Un grand merci, David Charlet, président de Lana Kofi. À très bientôt. Excellente journée à tous.
À bientôt.
Club Lana Kofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine, présentée par David Charlet et Fabrice Coustet.